Make some noise.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Derrière.
Derrière.
L'objectif.
L'objectif.
Derrière l'objectif.
Il y a un gamin qui est venu vers moi, qui s'est blotti contre mes jambes, donc je l'ai un peu pris dans mes bras, et puis il a relevé la tête, et donc il a dit quelque chose en ukrainien, donc je me suis tournée vers la directrice qui me dit, il te demande si t'es une amie ou si tu vas lui tirer dessus.
Grand reporter indépendante, Manon Kérouille-Brunel, qui travaille essentiellement pour Paris Match, vient de rentrer d'Ukraine et signe dans le magazine un reportage intitulé « Bataille pour les enfants perdus ». La journaliste s'intéresse à la gestion des orphelinats pendant la guerre, au sort de ces enfants qui sont, peut-on lire dans l'article, écartés de la société en temps de paix et aujourd'hui sacrifiés à la cruauté d'une guerre qui ne compte pas leur survie au rang des priorités. Derrière l'objectif, avec Manon Kérouille-Brunel, nous sommes en Ukraine et ça se passe en ce moment même, en 2022.
L'enjeu, c'était au bout de 3 semaines de conflit, quand même, de partir avec un angle assez clair. On avait donc d'une part envie de raconter une histoire humaine, et d'autre part, on voulait essayer de toucher un peu à certains angles morts du conflit, et en l'occurrence, c'était les enfants.
Dans les décombres, les pompiers cherchent des survivants. La ville de Soumy vient d'être bombardée dans la nuit. Les avions russes ont frappé ces maisons. 21 personnes ont péri dans ce déluge de feu, dont 2 enfants. À Kharkiv, cette école est en feu après avoir été visée par une attaque de l'armée russe. Découper le béton, s'accrocher à l'espoir de retrouver des rescapés dans cet amas de ruines. Les secours travaillent sans relâche.
J'ai des larmes qui coulent sur mon visage. Ma femme a été blessée par des éclats d'obus. Elle est maintenant à l'hôpital.
On voyait beaucoup d'enfants qui traversaient la frontière, en fait, des Ukrainiens qui partaient vers la Pologne, dont beaucoup d'enfants seuls. Donc j'ai commencé à remonter un peu ce fil. Et puis j'ai été contactée par une ONG ukrainienne, mais ce qui est assez rare, ils ont fait un casting. Ils cherchaient la bonne personne pour raconter leur histoire. Mais à ce stade, moi, je ne savais même pas ce que j'étais censée raconter. Je savais que c'était une histoire liée au sort des enfants en Ukraine. Donc j'ai répondu à plein de questions, j'ai envoyé des sujets que j'avais déjà réalisés. J'ai compris à mi-parcours qu'ils cherchaient une femme, parce qu'ils avaient l'impression qu'il y aurait un regard ou une sensibilité qui serait différente de celle d'un confrère masculin. Et là, j'ai compris qu'en fait, c'était une ONG qui s'occupait des évacuations des orphelinats situés dans les zones de bombardement. Et qui, du coup, étaient des enfants sans tuteurs légaux, ou en tout cas, dont on se souciait pas beaucoup. Puisque c'était des enfants soit lourdement handicapés, moteurs ou mentaux, soit des tout petits bébés. Donc, dans les deux cas, il faut des gens, des accompagnateurs, en fait, quasiment le ratio de un enfant pour un adulte, qui prennent le risque de traverser le pays à feu et à sang pour venir les mettre à l'abri. Et donc, au détriment de leur propre famille, souvent. C'était tout l'enjeu. L'homme qui s'occupait de cette organisation, qui s'appelle Nicolas Kouleba, était un ancien commissaire auprès du précédent pour le droit des enfants. Et lui essayait donc de mobiliser des bus, des ambulances, de pouvoir aller dans ces zones particulièrement exposées au bombardement et de pouvoir repartir avec les enfants en leur trouvant aussi un point de chute. C'était un peu Don Quichotte. On s'est installé chez lui, il avait une maison dans une banlieue de Kiev, il y avait toute son équipe qui s'était installée à demeure. C'était comme un centre de crise qui fonctionnait 24 heures sur 24, parce que donc, du coup il y avait l'identification des orphelinats les plus à risque. Il y avait ensuite la logistique, le transport, donc les ambulances, des chauffeurs pour les bus qui acceptaient de conduire des bus d'enfants dans un pays en guerre avec des risques d'obus qui s'abattent régulièrement. Et du coup, un point de chute après pour ces enfants. Et ce que j'ai découvert, ce qui était vraiment une grande surprise pour moi, c'est que sa principale difficulté, c'était pas toute celle-là. C'était le fait que le gouvernement ukrainien, qui était inquiet des risques de trafic de mineurs, exigeait des autorisations. Et donc ce principe de précaution appliqué même face à l'urgence, cette bureaucratie très lourde dans les anciens pays soviétiques, il va bloquer complètement son action. Et c'était finalement assez incroyable de se dire que cet homme, son enjeu, c'était d'arriver à sortir les enfants à temps avant que les Russes soit ne bombardent, soit ne prennent possession des territoires. Dans les territoires ukrainiens qui sont tombés sous le contrôle de Moscou, on ne peut plus rien faire pour les enfants. Donc pour lui, c'était vraiment une course contre la montre. Assez dramatique, puisque au début de l'offensive, les Russes avançaient très vite. Et puis après, dans un deuxième temps, quand ils ont commencé à s'enliser militairement, ils ont eu un recours intensif à l'artillerie. En tout cas, des armes qui ne permettent pas de cibler précisément des cibles militaires ou des cibles civiles. Donc là, on a commencé à comprendre que le coût de la guerre allait augmenter à mesure que les troupes russes s'enlisaient sur le terrain. Et évidemment, les principales victimes de ces frappes aveugles, ce sont des enfants qui n'ont pas de tuteurs légaux pour se soucier d'eux.
Blindage, быстро, быстро, быстро!
Il y a une équipe qui nous attend en Pologne, à la sortie de l'avion, qui nous amène à Lviv, qui est un peu le point d'entrée dans l'ouest de l'Ukraine. On est accueilli par une femme qui s'appelle Tatiana, qui est une spécialiste des questions de child trafficking. Et donc, je partage un dortoir avec elle. Là, on se retrouve directement dans le bain. Parce que première nuit, alerte anti-bombe. Donc, tout le monde court tous dans les abris, donc c'est les sous-sols de l'église. Bon, moi, comme je me suis fait avoir comme une bleue sur la première fois, je suis descendue sur mon manteau. Et là, il faisait un froid de gueux. Donc, on reste une demi-heure, on remonte. Et deux heures après, rebelote, recours, cette fois-ci j'ai mon manteau et on y passe 4 heures hein, dans les abris. Donc je comprends vite qu'il va falloir apprendre à dormir un peu n'importe où et n'importe comment pour tenir la distance. Et le lendemain, on prend la route avec un journaliste ukrainien qui travaille souvent avec l'équipe de Nicolas Kouleba, qui nous fait la route Lviv-Kiev, qui peut être un peu compliquée parfois. Et là, qui nous dépose du coup chez Nicolas. Et donc, on a resté une petite semaine avec ses équipes et à partager avec eux les difficultés logistiques au quotidien. Il y avait des couvre-feux imposés à Kiev un jour sur deux, donc interdiction de circuler. Donc, les évacuations n'avaient pas lieu. Et puis finalement, le vendredi matin, ils n'avaient toujours pas l'autorisation dont je parlais tout à l'heure, qui est un peu le sésame, et il décide de prendre son risque en fait, et de faire quand même l'évacuation et de mettre un coup de pression au gouvernement une fois que les enfants sont dans le bus. Et donc là, on est parti, c'était dans la région de Jytomyr, donc qui est pas très loin de Kiev, mais à ce moment-là, les Russes avaient déjà pris une partie de la route, donc il fallait faire un grand détour par le sud. Donc lui, il avait un véhicule blindé, ce qui était assez confortable, au moins psychologiquement. Et donc on est parti faire dans cet établissement. Donc là, c'était une quarantaine d'enfants lourdement handicapés, mentaux, donc avec des spectres autistiques plus ou moins lourds. Et quand on est arrivé, les gamins avaient déjà préparé leur petit sac à dos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les orphelinats en Ukraine, c'est pas exactement comme chez nous. La plupart des enfants qui sont confiés là-bas ont encore des parents, mais ils ont été abandonnés soit à cause de leur handicap, soit parce que les parents n'ont pas la capacité économique souvent. Il y a des gros problèmes d'alcoolisme aussi. Donc c'est des gamins qui ont encore au moins un parent, mais qu'ils ne voient plus depuis des années. Et dont personne ne s'est soucié avec le début de l'offensive. Moi, j'ai posé la question à la directrice, je lui ai dit, mais est-ce que quelqu'un a appelé pour ses enfants? Il n'y avait eu aucun appel. Personne, dans le sauf-qui-peut général, les parents étaient eux-mêmes partis, les enfants étaient restés sur place. Ça faisait déjà une semaine qu'ils dormaient tous aux abris chaque nuit parce que les sirènes anti-bombardement, c'est assez stressant. Surtout pour ces gamins. Donc pour éviter les allers-retours en pleine nuit, ils avaient installé leur matelas et donc dès 19h, ils descendaient dans les caves où ils passaient la nuit.
C'est l'abri le plus proche. C'est là qu'on doit descendre quand on entend les sirènes. On a des petites niches avec des bancs, des couvertures. Et on s'assoit en groupe avec les éducateurs. Comme de petites alcôves pour qu'on puisse se poser, se calmer, être plus apaisé.
Quand on est arrivé, on nous explique que la veille, un obus est tombé à moins de 2 km. Donc ça avait fait un boucan pas possible. C'était en pleine journée, donc là, il a fallu aussi descendre aux abris. Donc les enfants qui avaient commencé à comprendre que la nuit, il fallait descendre. Là, la journée aussi, il a fallu partir en catastrophe. Une puéricultrice qui me dit qu'ils ont mis la musique très fort pour essayer d'étendre l'atmosphère, que les enfants entendent un peu assourdi les bruits des bombardements, qu'ils avaient essayé de danser, mais que ça avait été extrêmement stressant en fait pour tout le monde. Et dans cet établissement, en fait, on ne mélange pas les enfants des orphelinats des établissements avec les enfants de l'école publique. Donc en fait, ils ne sont jamais sortis de cet établissement. Ils ont une cour dans laquelle ils allaient depuis le début de la guerre quasiment plus, mais ils sont jamais mélangés. Donc c'est vraiment une société à part entière. Et ce jour-là, c'était quand même une bonne nouvelle puisqu'on venait les évacuer, que Nicolas Kouleba avait trouvé un institut en République tchèque qui acceptait d'accueillir les enfants, qu'il avait trouvé les bus, les ambulances. Mais c'était des adieux en fait déchirants puisque la moitié du personnel va rester sur place puisqu'ils ont leur propre famille. Il y en avait certains par contre qui partaient et qui avaient confié leurs propres enfants à des cousins, des frères ou des sœurs pour accompagner les enfants faire ce trajet. Et donc il y avait un mélange de soulagement évident puisqu'ils allaient être sauvés. Et puis il y avait une tristesse sans fond parce que ces femmes s'arrachaient à ces enfants qu'elles considèrent comme les leurs. Et les enfants, c'était compliqué de savoir ce qu'ils comprenaient, ce qu'ils saisissaient la situation. Ils savaient qu'ils partaient, il y en avait certains qui étaient très enjoués comme pour une sortie scolaire et d'autres qui étaient terrorisés, qui hurlaient, qui se bouchaient les oreilles, qui se balançaient beaucoup d'avant en arrière parce qu'on sentait que c'était très très stressé. Et du coup, tout ce petit monde est parti, est monté dans les bus. Bon, alors là, tout le monde pleurait, moi aussi. Enfin, c'était vraiment déchirant. Notamment une éducatrice qui, elle, me disait que depuis le début de la guerre, elle les avait pas laissés même une seconde. Donc, elle avait renoncé à aller voir ses propres enfants pour rester avec eux jour et nuit. Et puis, elle s'est plantée devant le bus et elle les a étreints les uns après les autres. Ils pleuraient tous, elle aussi. En pleurant, elle répétait « C'est une bonne nouvelle, vous êtes sauvés, c'est une bonne nouvelle. » Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et le bus est parti. À ce moment-là, je regarde Nicolas Kouleba et je vois qu'il est hyper emmerdé. Il me dit toujours pas l'autorisation, la fameuse. Donc on suit le bus. Une heure après, on s'arrête dans un endroit à peu près calme sur la place d'un village et on attend. On attend l'autorisation. Donc il faut s'imaginer ça qu'il y a cette quarantaine de gamins enfermés dans un bus, certains dans des ambulances parce qu'ils pouvaient circuler que allongés. Et donc à qui on dit, ben voilà, pour le moment, votre libération, là, toujours pas. Et puis au bout de 2 heures, enfin, l'autorisation est tombée. Et ils sont partis vers la Pologne, et aujourd'hui, ils sont en République tchèque. Et une fois qu'ils sont partis, nous, on avait un autre établissement à visiter, pas très loin. Cette fois-ci, c'était une pouponnière, donc c'est des petits bébés de moins d'un an. Et là, la problématique était autre, c'est que la directrice, elle ne voulait pas partir, ne voulait pas s'arracher à l'établissement parce qu'elle avait sa famille, parce que dans son personnel, certains étaient déjà partis avec le début de la guerre, donc ils étaient en sous-effectif. Donc ils n'ont pas de solution matérielle, ils n'ont pas d'accompagnateur adulte pour emmener ces bébés. Et là, c'était terrible parce qu'il était à peu près 18h. C'était un établissement qui était au milieu de la forêt, donc ça avait un côté assez comme dans une... une fable malheureuse. Il n'y avait pas un bruit. Le bâtiment était plongé dans l'obscurité au point que moi, en rentrant, j'ai eu peur. Je me suis dit, il y a eu un carnage ici. On n'entendait rien. Et puis finalement, on voit une petite femme sortir du sous-sol qui nous dit « Venez par ici », qui nous entraîne dans un dédale de couloir. Et là, au bout de, je sais pas, 2 minutes qui m'ont semblé une éternité, j'ai enfin entendu un bruit de bébé, un petit bruit de vie. Et on a découvert à la pouponnière qui s'était installée vraiment au sous-sol. Et là, eux, ils sortaient même plus du tout puisque c'était trop compliqué avec tous ces bébés. Il y en avait 19. Et je me souviens que je m'étais fait la réflexion qu'ils pleuraient à faible intensité, en fait. Même pour des bébés qui cherchent le sommeil, normalement, ça peut faire beaucoup de bruit, on le sait. Et eux, ils s'étaient contenus, comme s'ils avaient déjà compris qu'en fait, dans le fracas de la guerre, crier, ça allait servir à rien. Et donc, il y avait des puéricultrices, 3 hein, pour 19 enfants, qui passaient d'un lit à un autre, qui essayaient de les aider à trouver le sommeil. Et puis là, il y a Nicolas... qui a argumenté longtemps avec la directrice, qui lui disait « Non, mais je peux pas les accompagner. » Il lui disait « Mais j'ai les bus, je vais débloquer l'autorisation. Tu vois bien, vous vivez ici, il y a des bombardements tout le temps. » Elle disait « J'ai pas de solution. » Et là, sirène d'alarme. Donc on a dû partir, nous, en courant, et on les a laissés. On les a laissés derrière, et eux, ils sont toujours. « On est reparti, je me souviens, dans cet habitacle feutré là, de la voiture blindée, et je le voyais qui, tout de suite, en fait, a enchaîné sur une autre évacuation, une autre autorisation. Il était greffé en permanence à son téléphone. C'était un ancien businessman, donc je me suis fait la réflexion qu'il gérait ça comme ses affaires avant, avec vachement d'efficacité, sans pathos, jamais, à se concentrer en fait pour être vraiment dans l'efficacité. J'ai eu beaucoup de mal à écrire cette histoire parce que je trouvais qu'aucun mot n'était assez juste, assez fort pour décrire cette situation-là. Je trouvais qu'on était arrivé vraiment au bout de cet exercice de raconter la guerre par le prisme des enfants. Ce qui était hyper dur pour moi aussi, c'est que dans les deux cas, que ce soit les tout petits bébés ou les enfants atteints d'un handicap, j'avais pas pu parler avec eux. Donc j'avais pas le témoignage direct des premiers concernés. J'avais essayé un peu dans l'établissement pour les enfants autistes. Dans un premier temps, en fait, il y a un gamin qui est venu vers moi, qui s'est blotti dans mes jambes, contre mes jambes, donc je l'ai un peu pris dans mes bras, et puis il a relevé la tête, et donc il a dit quelque chose en ukrainien, donc je me suis tournée vers la directrice qui me dit il te demande si t'es une amie ou si tu vas lui tirer dessus. Je me suis dit que j'allais pas le stresser davantage, donc j'ai travaillé autrement avec les accompagnateurs adultes, mais c'est vrai qu'au moment d'écrire l'histoire, il me manquait leurs mots, et que je ne saurais jamais ce qu'ils ont ressenti à ce moment-là. Quoi. Moi, j'avais un truc très personnel aussi, c'est que la grand-mère de mon mari est ukrainienne. Elle a 97 ans, elle vivait seule en Ukraine quand la guerre a éclaté. Il était allé la voir quelques jours avant et elle n'avait jamais voulu rentrer avec lui. Donc, il lui avait laissé un peu d'argent pour qu'elle se débrouille. Et puis, quand ça a commencé à bombarder vraiment sévère, elle nous appelait en larmes. Et donc, on l'a fait sortir, mais ça a été toute une histoire parce qu'elle a 97 ans. Donc, et elle arrivait le jour où moi, je suis partie en Ukraine. Donc, il y a eu une espèce de passage de relais. Mais du coup, j'avais déjà un peu touché du doigt cette guerre avec un truc très, très personnel. Et c'était déjà une histoire d'évacuation. Donc après, quand je suis retombée sur mes histoires d'enfants à évacuer, je pense que ça a fait écho à plein de trucs et j'étais déjà un peu chamboulée en arrivant. Ça peut être dangereux hein, quand on perd un peu les pédales, mais en avoir conscience, déjà, je trouvais que c'était... Je savais hein, que j'allais être à fleur de peau pendant deux semaines. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ça ne me déroute pas du sujet et en même temps le faire avec quand même empathie et respect pour les gens. Mais c'est ce qu'on s'astreint tous à faire. On y arrive plus ou moins bien. Il y a quand même une distance à essayer, qu'il faut qu'on arrive à garder dans ces moments-là qui n'est pas toujours facile. Je me souviens qu'en arrivant dans la pouponnière sous terre, comme les bébés ils pleuraient, je me suis jetée dessus puis je les prenais dans mes bras. Puis en 5 minutes, mon camarade photographe me dit « Tu peux sortir de ma photo, s'il te plaît ?» J'ai dit « Oui, t'as raison, pardon, je ne suis pas du tout là pour ça. » Mais voilà, par moments, on oublie qu'on est là pour faire un reportage.
Derrière l'objectif. Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.